Paul Gauguin, Noah, Noah. Chapitre 1er. En exergue. Dites, qu'avez-vous vu ? Charles Baudelaire, Le Voyage. Le 8 juin, dans la nuit, après 63 jours de traversées diverses, 63 jours pour moi de fiévreuse attente, d'impatientes rêveries vers la terre désirée, nous aperçûmes sur la mer des feux bizarres qui évoluaient en zigzag. Sur un ciel sombre se détachait un cône à dentelle. Nous tournions Mouréa pour découvrir Tahiti. Quelques heures après, le petit jour s'annonçait. Nous approchant avec lenteur des récifs, le cap sur la pointe Vénus, nous entrions dans la passe de Papeete et nous mouillions sans avarie dans la rade. Le premier aspect de cette petite île n'a rien de féerique, rien de comparable par exemple à la magnifique baie de Rio de Janeiro. Tout yeux, je regardais sans esprit de comparaison. C'est le sommet d'une montagne submergée aux jours anciens du déluge. L'extrême pointe seule dominait les eaux. Une famille s'y est réfugiée, sans doute, y a fait souche et les coraux aussi ont grimpé, entourant, développant l'île nouvelle. Elle a continué à s'étendre, mais elle garde de son origine un caractère de solitude et de réduction que la mer accentue de son immensité. À 10 heures du matin, je me présentais chez le gouverneur, le nègre La Cascade, qui me reçut comme un homme d'importance. Je devais cet honneur à la mission que m'avait, je ne sais pas trop pourquoi, confié le gouvernement français. Mission artistique, il est vrai, mais ce mot aux yeux du nègre n'était que le synonyme officiel d'espionnage, et je fis vainement tous mes efforts pour le détromper. Tout le monde autour de lui partagea son erreur, et quand je dis que ma mission était gratuite, personne ne voulut me croire. La vie à Papeete me devint bien vite à charge. C'était l'Europe, l'Europe dont j'avais cru m'affranchir, sous les espèces aggravantes encore du snobisme colonial, d'une imitation puérile et grotesque jusqu'à la caricature. Ce n'était pas ce que je venais chercher de si loin. Pourtant, un événement public m'intéressa. En ce temps-là, le roi Pomaré était mortellement malade, et chaque jour on s'attendait à la catastrophe. Peu à peu, la ville prenait un aspect singulier. Tous ceux qui venaient d'Europe, commerçants, fonctionnaires, officiers et soldats, continuaient à rire et à chanter dans les rues, tandis que les naturels, avec des airs graves, s'entretenaient à voix basse autour du palais. Dans la rade, un mouvement anormal de voiles orange sur la mer bleue que traversaient là de brusques et fréquentes reprises sous le soleil les frissons argentés de la ligne des récifs. C'étaient les habitants des îles voisines qui, de jour en jour, accouraient pour assister au dernier moment de leur roi, à la prise possession définitive de leur empire par la France. Des signes d'en haut les avaient avertis, car chaque fois qu'un roi meurt, les montagnes ont des plaques sombres sur certains versants au coucher du soleil. Le roi mourut et fut dans son palais, en grande tenue d'amiral, exposé aux yeux de tous. Là, je vis la reine Maro, tel était son nom. Elle ornait de fleurs et d'étoffes le salon royal. Comme le directeur des travaux publics me demandait un conseil pour ordonner artistement le décor funèbre, pour toute réponse, je lui indiquai la reine, qui, avec le bel instinct de la race maori, répandait la grâce autour d'elle et faisait un objet d'art de tout ce qu'elle touchait. Mais je ne la compris encore qu'imparfaitement ce jour-là. Déçu comme je l'étais par des êtres et des choses si différents de ce que j'avais désiré, écœuré par toute cette trivialité européenne, trop récemment débarquée pour avoir pu démêler ce qui persiste de national dans cette race vaillante et vaincue, de réel et de beau sous le factice et désobligeant plaquage de nos importations, j'étais en quelque sorte aveugle. Aussi ne vis-je dans cette reine d'un âge déjà mûr qu'une épaisse femme ordinaire avec de beaux restes. Peut-être aussi, ce jour-là, la part juive de son sang avait-elle tout absorbé. Plus tard, quand je la revis, je compris son charme maori. Le sang tahitien reprenait le dessus. Le souvenir de l'aïeul, le grand chef Tati, donnait à cette femme, comme à son frère, comme à toute sa famille, un caractère de grandeur vraiment imposant. Elle avait cette majestueuse forme sculpturale de là-bas, ample à la fois et gracieuse, avec ses bras qui sont les deux colonnes d'un temple, simple, droit et le haut vaste, se terminant en pointe, construction corporelle qui évoque invinciblement dans ma pensée le grand triangle de la Trinité. Dans ses yeux brillait parfois comme un pressentiment vague des passions qui s'allument brusquement et embrasent aussitôt la vie alentour. Et c'est ainsi que l'île elle-même a surgi de l'océan et que les plantes y ont fleuri au rayon du premier soleil. Tous les Tahitiens se vêtirent de noir et, deux jours durant, on chanta les hymens de deuil des chants de mort. Oh, j'ai cru entendre la sonate pathétique. Vint le jour de l'enterrement. À 6 heures du matin, on partit du palais. La troupe et les autorités, habits noirs, casques blancs, et les naturels dans leurs vêtements funèbres. Tous les districts marchaient en ordre, et le chef de chacun d'eux portait le pavillon français. Cela faisait une profonde masse noire. Au district d'Aru, on s'arrêta. Là se dressait un monument indescriptible qui faisait avec l'atmosphère et le décor végétal le plus terrible contraste. Amas informes de pierres de corail reliées par du ciment. Le nègre La Cascade fit un discours, cliché connu qu'un interprète traduisit ensuite pour l'assistance maori. Puis le pasteur protestant fit un prêche. Enfin, Tati, frère de la reine, répondit. Et ce fut tout. On partit, les fonctionnaires s'entassaient dans les carrioles, et cela rappelait quelques retours des courses. Sur la route, à la débandade, l'indifférence des Français donnant le ton, tout ce peuple, si grave depuis quelques jours, recommençait à rire. Les vaïnés reprenaient le bras de leurs tannins, dodelinaient des fesses, tandis que leurs larges pieds nus foulaient lourdement la poussière du chemin. Près de la rivière de la Fantaoua, éparpillement général. De place en place, cachées entre les cailloux, les femmes s'accroupissaient dans l'eau, leurs jupes soulevées jusqu'à la ceinture, rafraîchissaient leurs hanches et leurs jambes irritées par la marche et la chaleur. Ainsi purifiées, elles reprenaient le chemin de Papeete, la poitrine en avant, les deux coquillages qui terminent le sein pointant sous la mousseline de la robe avec la souplesse et la grâce de jeunes bêtes bien portantes. un parfum mélangé, animal et végétal, émanait d'elle, parfum de leur sang et parfum des fleurs de gardenia, tiare, qu'elles portaient dans leurs cheveux. Maintenant très odorant, disait-elle. Et tout rentra dans l'ordre habituel. Il n'y avait qu'un roi de moins. Avec lui disparaissaient les derniers vestiges des habitudes et des grandeurs anciennes. Avec lui, la tradition maori était morte. C'était bien fini. La civilisation, hélas, triomphait, soldatesque, négoce et fonctionnarisme. Une tristesse profonde s'empara de moi. Avoir fait tant de chemin pour trouver cela, cela même que je fuyais. Le rêve qui m'amenait à Tahiti était cruellement démenti par le présent. C'est la Tahiti d'autrefois que j'aimais. Et je ne pouvais pas me résigner à croire qu'elle fût tout à fait anéantie, que cette belle race n'eût rien, nulle part, sauvegardé de sa vieille splendeur. Mais les traces de ce passé si lointain, si mystérieux, quand elles subsisteraient encore, comment les découvrir? Tout seul, sans indication, sans aucun appui. Retrouver le foyer éteint, raviver le feu au milieu de toutes ces cendres. Si fort que je sois abattu, je n'ai pas coutume de quitter la partie sans avoir tout tenté et aussi l'impossible. Ma résolution fut bientôt prise. Partir de Papeete, m'éloigner du centre européen. Je pressentais qu'en vivant tout à fait de la vie des naturels, avec eux, dans la brousse, je parviendrais, à force de patience, à vaincre la défiance de ces gens-là, et que je saurais. Un officier de gendarmerie m'offrit gracieusement sa voiture et son cheval. Je m'en allais un matin à la recherche de ma case. Ma vaïnée m'accompagnait. Titi, elle se nommait. Presque anglaise, elle parlait un peu le français. Elle avait mis ce jour-là sa plus belle robe, une fleur à l'oreille, selon la mode maori, et son chapeau en fil de canne, par elle-même tressé, s'ornait au-dessus d'un ruban de fleurs en paille d'une garniture de coquillages orangés. Ses cheveux noirs déroulés sur ses épaules, fière d'être en voiture, fière d'être élégante, fière d'être la vaïnée d'un homme qu'elle croyait important et riche, elle était ainsi vraiment jolie et toute sa fierté n'avait rien de ridicule tant l'air majestueux sied au visage de cette race. Ils gardent leur longue histoire féodale et des vieux souvenirs des grands chefs, un ineffaçable pli d'orgueil. Je savais bien que son amour, très intéressé, n'eût guère pesé plus lourd dans des esprits strictement européens que la complaisance vénale d'une fille. Mais j'y distinguais autre chose. Ses yeux-là et cette bouche ne pouvaient mentir. Chez toutes ces Tahitiennes, l'amour est tellement dans le sang, tellement essentiel, qu'intéressé ou désintéressé, c'est toujours de l'amour. La route fut en somme assez vite parcourue. Quelques causeries insignifiantes et un paysage riche et monotone. Toujours sur la droite, la mer, les récifs de corail et des nappes d'eau, qui parfois s'élevaient en fumée, quand se faisait très brusque la rencontre de la lame et du roc. À midi, nous achevions notre 45e kilomètre et nous atteignions le district de Mataiea. Je visitai le district et je finis par trouver une assez belle case que son propriétaire me céda en location. Il s'en construira une autre à côté pour l'habiter. Le lendemain soir, comme nous revenions à Papeete, Titi me demanda si je consentais à la prendre avec moi. Plus tard, dans quelques jours, quand je serai installé. J'avais conscience que cette demi-blanche, qui avait à peu près oublié sa race, ses différences au contact de tous ces Européens, ne pourrait rien m'apprendre de ce que je voulais savoir. Rien me donner du bonheur particulier que je désirais. Et puis, me disais-je, à l'intérieur, à la campagne, je trouverai ce que je cherche et je n'aurai que la peine de choisir. Mais la campagne n'est pas la ville. Depuis quelques jours, je suis assez malade. Les restes d'une bronchite contractée l'hiver à Paris, et je suis bien seul dans Papeete. Enfin, prenons patience. Dans peu de temps, je serai là-bas, au 45e kilomètre. Laura Nagogin, c'était la princesse qui entrait dans ma chambre, et j'étais sur mon lit, vêtu seulement d'un simple pareo à la ceinture. Mauvaise tenue pour recevoir une femme de qualité. « Tu es malade, me dit-elle, je viens te voir. »« Es-tu un homme ?» lui dis-je. « Vaitua. » Vaitua était une vraie princesse, si toutefois il en existe depuis que les Européens ont dans ce pays rabaissé tout à leur niveau. Le fait est qu'elle arrivait là, pieds nus, une fleur à l'oreille et une robe noire. Elle était en deuil de son oncle, le roi Pomaré, qui venait de mourir. Son père à elle, Tamatoa, malgré le frottement européen, les réceptions d'amiral, n'avait jamais voulu être autre chose qu'un royal Maori, gigantesque batteur d'hommes dans ses moments de colère, et en orgie terrible Minotaure. Vaitua, disait-on, lui ressemblait beaucoup. Comme tout Européen qui débarque dans l'île avec un casque blanc, je regardais cette princesse déchue, le sourire aux lèvres, sceptique, mais je voulus être poli et je lui dis « Tu es aimable d'être venu, veux-tu que nous prenions ensemble l'absinthe ?» Et du doigt, je lui indiquai une bouteille tout dernièrement achetée pour mes réceptions. Froidement, très simplement du reste, elle s'avança vers l'endroit désigné et se baissa pour prendre la bouteille. Sa légère robe transparente se tendit sur les reins, des reins à supporter un monde. Il n'y avait pas d'erreur, c'était bien une princesse. Ses aïeux, des géants braves et forts. Sur ses puissantes épaules, la tête était solidement plantée. Je le vis un instant que sa mâchoire d'anthropophage, ses dents prêtes à déchirer, son regard fuyant de rusé animal, et, malgré un très beau front noble, je la trouvais tout à fait laide. Pourvu qu'elle ne vienne pas s'asseoir sur mon lit, jamais cette légère menuiserie ne nous supporterait tous les deux. C'est justement ce qu'elle fit. Mais malgré de sérieux craquements, le lit résista. Nous fîmes connaissance en buvant. La conversation de part et d'autre ne s'animait pas et le silence me gênait. J'observais, elle me regardait. Mais la bouteille filait. Vaitua buvait solidement. Le soleil baissait rapidement. Vaitua fit une cigarette tahitienne, puis s'allongea sur le lit. Ses deux pieds nus caressaient le bois d'extrémité, telle la langue d'un tigre sur un crâne. Son visage s'était singulièrement radouci et animé. Je m'imaginais entendre le ronron d'un félin méditant une horrible sensualité. Comme l'homme est changeant. Et voilà que je la trouvais belle, très belle. Et quand elle me dit de la saccade dans la voix, « Tu es jolie !» Un grand trouble m'envahit. Décidément, la princesse était délicieuse. D'une voix très grave et cuivrée, elle se mit à réciter entièrement cette fable de la fontaine, la cigale et la fourmi. Un joli souvenir de son enfance passée chez les sœurs qu'il avait instruites. La cigarette était toute partie en fumée et elle se leva. « Tu sais, Gauguin, me dit-elle, je n'aime pas ton La Fontaine. Comment, nous qui l'appelons le bon La Fontaine ? Ben, peut-être est-il bon, mais il m'embête avec ses vilaines morales. Les fourmis, et sa bouche indiquait le dégoût. Les cigales, mais comme je les aime, c'est si beau, c'est si bon de chanter. Chanter toujours, donner toujours, toujours. Et avec fierté, elle ajouta, quel beau royaume était le nôtre, celui où l'homme comme la terre prodiguait ses bienfaits, nous chantions toute l'année. Oh, je crois que j'ai beaucoup bu d'absinthe, je m'en vais, je ferai des bêtises. » À la porte du jardin, un jeune homme interpella Victoire, un de ces jeunes gens qui savent tout et ne savent rien. Dans les bureaux, on les appelle écrivains et on les classe. Victoire s'éloignait en l'appelant Uri, chien. Je remis la tête sur l'oreiller et à mon oreille, comme un murmure, cette phrase. Laurana Gauguin. Laurana, ma princesse. Je me reposais. Je ne suis plus à Papeete, mais au district de Matayea. D'un côté, la mer et de l'autre, la montagne. La montagne béante, crevasse, formidable, que bouchait, adossé au roc, un groupe énorme de manguiers. Entre la montagne et la mer, s'élevait ma case en bois de Bulao, et après, auprès de ma case, il y avait une autre petite farée à mu, une maison pour manger. C'est le matin. Sur la mer, contre le bord, je vois une pirogue et dans la pirogue une femme. Sur le bord, un homme presque nu, et à côté de l'homme, un cocotier malade semble un immense perroquet dont la queue dorée retombe et qui tient dans ses serres une grosse grappe de coco. L'homme lève de ses deux mains, dans un geste harmonieux et souple, une hache pesante qui laisse en haut son empreinte bleue sur le ciel argenté, en bas son incision sur l'arbre mort, où vont revivre en un instant de flamme les chaleurs séculaires jour à jour thésaurisées. Sur le sol pourpre de longues feuilles serpentines d'un jaune métallique semblaient les caractères écrits de quelque lointaine langue orientale. Et j'y croyais lire ce mot originaire d'Océanie, Atua, Dieu, le Ta'ata ou la Takata, qui de l'Inde rayonne partout, se retrouve dans toutes les religions. Aux yeux de Takata, les plus splendides magnificences des rois et de leurs ministres ne sont que du crachat et de la poussière. À ses yeux, la pureté et l'impureté sont comme la danse des six nagas. À ses yeux, la recherche de la voix de Bouddha est semblable à celle des fleurs. Dans la pirogue, la femme rangeait quelques filets. La ligne bleue de la mer était fréquemment rompue par le vert de la crête des lames retombant sur les brisantes corailles. J'allais, ce soir-là, fumer une cigarette sur le sable au bord de la mer. Le soleil, rapidement descendu sur l'horizon, était à demi caché déjà par l'île Moorea que j'avais à ma droite. Les oppositions de lumière accentuaient nettement et puissamment, noires sur le ciel incendié, les montagnes dont les arêtes dessinaient d'anciens châteaux crénelés. Est-ce en vain que cette idée féodale me poursuit devant ces aspects naturels? Là-bas, ce sommet a la forme d'un cimier gigantesque. Les flots autour de lui, qui font le bruit d'une foule immense, ne l'atteindront jamais. Seul debout parmi toutes les grandeurs écoulées, le cimier protecteur reste voisin des cieux. De là, un regard caché plonge dans les eaux profondes où fut engloutie la foule des vivants, coupable d'avoir touché à l'arbre de la science, coupable du péché de la tête. Et le cimier, une tête aussi, avec je ne sais quelle analogie évoquée de sphinx, semble, par la figure vaste où serait la bouche, adresser majestueusement l'ironie ou la compassion d'un sourire au flot où dort le passé. La nuit tomba vite, Moorea dormait, le silence. J'apprenais à connaître le silence d'une nuit tahitienne. Seuls les battements de mon cœur se faisaient entendre. De mon lit, je distinguais aux filtrations des clartés lunaires les roseaux alignés, également distants entre eux de ma case. On eût dit un instrument de musique, le pipeau des anciens, que les Tahitiens nomment vivo. Mais c'est un instrument silencieux tout le jour durant. La nuit, dans la mémoire et grâce à la lune, il nous redit les airs aimés. Je m'endormis à cette musique. Entre le ciel et moi, rien que le grand toit élevé et léger en feuilles de pandanus où habitaient les lézards. Je pouvais, dans mon sommeil, m'imaginer l'espace libre au-dessus de ma tête, la voûte céleste, les étoiles. J'étais bien loin de ces prisons, les maisons européennes. Une case maori, n'exil, ne retranche point l'individu de la vie, de l'espace, de l'infini. Cependant, je me sentais là bien seul. De part et d'autre, les habitants du district et moi, nous nous observions, et la distance entre nous restait entière. Dès le surlendemain, j'avais épuisé mes provisions. Que faire? Moi, je m'étais imaginé qu'avec de l'argent, je trouverais tout le nécessaire de la vie. Erreur! C'est à la nature qu'il faut s'adresser pour vivre. Et elle est riche, et elle est généreuse. Elle ne refuse rien à qui va le lui demander. Sa part des trésors qu'elle garde dans ses réserves, sur les arbres, dans la montagne, dans la mer. Mais il faut savoir grimper aux arbres élevés, aller dans la montagne et en revenir chargé de fardeaux pesants, prendre le poisson, plonger, arracher dans le fond de la mer le coquillage solidement attaché aux cailloux. J'étais donc, moi, l'homme civilisé, inférieur pour l'instant aux sauvages vivant heureux autour de moi, dans un lieu où l'argent, qui ne vient pas de la nature, ne peut servir à l'acquisition des biens essentiels que la nature produit. Et comme l'estomac vide, je songeais tristement à ma situation, j'aperçus un indigène qui gesticulait vers moi en criant. Les gestes très expressifs traduisaient la parole, et je compris. Mon voisin m'invitait à dîner. Mais j'eus honte. D'un signe de tête, je refusai. Quelques minutes après, une petite fille déposait sur le seuil de ma porte, sans rien dire, quelques aliments proprement entourés de feuilles fraîches cueillies, puis se retirait. J'avais faim. Silencieusement aussi, j'acceptais. Un peu plus tard, l'homme passa devant ma case et, me souriant sans s'arrêter, me dit sur le ton interrogatif ce seul mot « Païa ?» Je devinais « Es-tu satisfait ?» Ce fut entre ces sauvages et moi le commencement de l'apprivoisement réciproque. Sauvage, oh ! Ce mot me venait immédiatement sur les lèvres quand je considérais ces êtres noirs aux dents de cannibale. Déjà, pourtant, je commençais à comprendre leur grâce réelle. Cette petite tête brune aux yeux tranquilles, par terre, sous des touffes de larges feuilles de giraumon, ce petit enfant qui m'étudiait à mon insu et s'enfuit quand mon regard rencontra le sien. Comme eux, pour moi, j'étais pour eux un objet d'observation, l'inconnu, celui qui ne sait ni la langue ni les usages, ni même l'industrie la plus initiale, la plus naturelle de la vie. Comme eux, pour moi, j'étais pour eux le sauvage. Et c'est moi qui avais tort, peut-être. Je commençais à travailler. Notes et croquis de toutes sortes. Mais le paysage, avec ses couleurs franches, ardentes, m'éblouissait, m'aveuglait. Jadis, toujours incertain, je cherchais de midi à 14 heures. Cela était si simple pourtant de peindre comme je voyais, de mettre sur ma toile, sans tant de calcul, un rouge, un bleu. Dans les ruisseaux, des formes dorées m'enchantaient. Et pourquoi hésitais-je à faire couler sur ma toile tout cet or et toute cette joie du soleil? Vieille routine d'Europe, timidité d'expression de race dégénérée. Pour bien m'initier au caractère si particulier d'un visage tahitien, à tout ce charme d'un sourire maori, je désirais depuis longtemps faire le portrait d'une de mes voisines, une femme de pure extraction tahitienne. Je profitais pour le lui demander d'un jour qu'elle s'était enhardie jusqu'à venir voir dans ma case des photographies de tableaux. Elle regardait avec un intérêt tout spécial l'Olympia. « Qu'en penses-tu ? » lui dis-je. Oui, j'avais appris quelques mots de tahitien depuis des mois que je ne parlais plus le français. Ma voisine me répondit « Elle est bien belle !» Je souris à cette réflexion et j'en fus ému. Elle avait le sens du beau. Mais que diraient d'elle les professeurs de l'école des beaux-arts ? Et elle ajouta tout à coup, rompant le silence qui préside à la déduction des pensées, « C'est ta femme ?»« Oui. » Je fis ce mensonge, moi, le tan de l'Olympia. Pendant qu'elle examinait très curieusement quelques tableaux religieux des primitifs italiens, j'essayais d'esquisser son portrait, m'efforçant surtout de fixer ce sourire énigmatique. Elle fit une moue désagréable, prononça d'un ton presque courroucé « Aïta, non !» et se sauva. Une heure après, elle était là de nouveau, parée d'une belle robe, une fleur à l'oreille. Que s'était-il passé dans son esprit ? Pourquoi me revenait-elle ? Était-ce un mouvement de coquetterie, le plaisir de céder après avoir résisté ? ou l'attrait du fruit défendu, ou simplement le caprice sans autre mobile que lui-même, le simple et pur caprice dont les Maoris sont si coutumières. J'eus conscience que mon examen de peinture comportait, avec une profonde étude de la vie intérieure du modèle, comme une prise de possession physique, comme une sollicitation tacite et pressante, comme une conquête absolue et définitive. Elle était peu jolie, en somme, selon les règles européennes de l'esthétique, mais elle était belle. Tous ses traits offraient une harmonie raphaélique dans la rencontre des courbes, et sa bouche avait été modelée par un sculpteur qui parle toutes les langues de la pensée et du baiser, de la joie et de la souffrance. Et je lisais en elle la peur de l'inconnu, la mélancolie de l'amertume mêlée au plaisir, et ce don de la passivité qui cède apparemment et, somme toute, reste dominatrice. Je travaillais en hâte, me doutant bien que cette volonté n'était pas fixe, en hâte et avec passion. J'ai mis dans ce portrait ce que mon cœur a permis à mes yeux de voir, et surtout peut-être ce que les yeux seuls n'eussent pas vu, cette flamme intense d'une force contenue. Son front très noble rappelait par des lignes surélevées cette phrase d'Edgar Poe « Il n'y a pas de beauté parfaite sans une certaine singularité dans les proportions. » Et la fleur qu'elle avait à l'oreille écoutait son parfum. Maintenant, je travaillais plus librement, mieux. Mais la solitude m'était à charge. Je voyais bien des jeunes femmes à l'œil tranquille, de pure tahitienne, et quelqu'une d'entre elles eût volontiers, peut-être, partagé ma vie. Mais toutes veulent être prises à la mode maori, mao saisir, sans un mot, brutalement, tout en quelque sorte le désir du viol. Et moi, devant elle, devant celle d'entre elles du moins qui ne vivait pas avec un tan, je me sentais vraiment intimidé tant elle nous regardait, les autres hommes et moi, avec franchise, avec dignité, avec fierté. Et puis, on disait de beaucoup qu'elles étaient malades, malades de ce mal que les Européens ont apporté aux sauvages, comme un premier et sans doute essentiel élément de civilisation. Aussi les vieillards avaient beau me dire en me montrant l'une d'elles, « Mao Terra, prends celle-ci. » Je ne me sentais ni l'audace ni la confiance nécessaire. Je fis savoir à Titi que je la recevrais avec plaisir. Elle avait pourtant à Papeete une terrible réputation, ayant successivement enterré plusieurs amants. L'essai, d'ailleurs, ne me réussit pas. Et je pus voir, à l'ennui que j'éprouvais dans la compagnie de cette femme habituée au luxe des fonctionnaires, quel réel progrès j'avais fait déjà dans la sauvagerie. Et au bout de quelques semaines, nous nous séparâmes sans retour, Titi et moi. Et de nouveau, seuls.